remporter la guerre au Liban voisin. C'est sans doute pourquoi en octobre dernier, Wissam El-Hassan, le chef de renseignement des forces de sécurité libanaises, a été assassiné.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h20 sur France Inter.
France Inter, la voix est libre.
Il est 15h04 et vous retrouvez Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Bonjour, je voudrais parler de la grève des chirurgiens. Sur les informations de M6 samedi soir, un chirurgien déclare « Si la ministre veut des chirurgiens à deux balles, elle aura de la chirurgie à deux balles ». Je voudrais rappeler au Conseil de l'Ordre que ce genre de déclaration mérite la révocation. Un expert d'Outreau avait dit la même chose, il a été révoqué. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour devenir chirurgien aux USA, il faut payer 50 000 dollars l'année scolaire à Columbia. En France, c'est le contribuable qui paye. Donc je voudrais rappeler aux chirurgiens que peut-être si on leur demandait de rembourser leurs études, eh bien le trou de la sécurité sociale serait peut-être moins profond. Voilà, il faut remettre un petit peu les choses à leur place et les yeux en face des trous. Il y a de quoi être scandalisé.
Salut les AMG, alors j'ai écouté avec attention l'émission avec Eric Hazan. Vu que vous avez parlé de la révolution et de la critique faite par Robespierre de la propriété privée, je voulais juste évoquer une histoire très peu connue qui a eu lieu dans l'actuelle Belgique, dans l'ancienne principauté de Liège. Il y a eu, un mois après la France, la révolution liégeoise. Et sans rentrer dans les détails, à l'intérieur de cette révolution liégeoise, il y a eu une révolution franchimontoise, dans le marquisat de Franchimont. En septembre 1789, un mois après la déclaration des droits de l'homme française, l'Assemblée nationale franchimontoise, la jugeant imparfaite, la redéclare. Et la déclaration des droits de l'homme franchimontoise reprend presque mot pour mot la déclaration française, sauf que les révolutionnaires franchimontois ont tout bonnement et simplement retiré l'article 17 relatif à la propriété privée des biens matériels, qui déclarait cette propriété comme inaliénable et sacrée. Parce que ceci leur posait un réel problème face au grignotement des propriétés collectives engagées par les grands propriétaires. En 1789, déjà. Intéressant, non? C'était Antoine de Berlin.
Pour promouvoir l'exploitation du gaz de schiste, il y a le lobby officiel des industriels du gaz et des huiles de schiste. Il a pignon sur rue avec son site internet legazdeschiste.fr. Et puis, agissant par des voies détournées, il y a les serviteurs du lobby. En général, les grands médias. Dernier exemple en date, le journal Le Monde, le quotidien des milieux financiers. Ce 10 novembre, deux journalistes, Claire et Thomas, ont l'idée originale d'aller interviewer Michel Rocard. Il lui pose des questions sur le rapport Gallois et sur la politique économique et financière du gouvernement. Et il n'oublie pas de l'interroger sur le gaz de schiste en France. Et là, banco, la réponse de Rocard est quasiment divine pour le lobby, à tel point que le journal en fera le gros titre de l'article. Avec le gaz de schiste, la France est bénie des dieux. Et Rocard ajoute une énormité qui lui a peut-être été soufflée. On sait que le gaz de lac était extrait par fracturation hydraulique sans dégâts sur place. Bien sûr, les deux journalistes savaient sans doute que le gaz de lac était contenu à haute pression dans une énorme poche souterraine et était exploité par de simples forages, comme pour le pétrole. Mais ils n'ont pas jugé utile d'éclairer les lecteurs sur cette confusion. Et l'ensemble du propos de Rocard a été repris partout sur le net, et malheureusement aussi sur France Inter. Ainsi va, jour après jour, la désinformation sur l'exploitation du gaz contenu sous forme de bulles au cœur même de la roche, et qui n'a rien à voir avec la réserve de gaz découverte en Aquitaine en 1951.
C'est un message pour Marisol Touraine. Vous savez, madame, que les grands pontes de la chirurgie utilisent les infrastructures de l'hôpital public pour leurs consultations privées et je crois qu'il serait temps de remettre de l'ordre dans cette profession. Il y a des chirurgiens espagnols qui seraient contents d'avoir ce qu'ils ont et de faire ce qu'ils font au prix où ils le font. Donc il y en a marre de leurs revendications indécentes et pathétiques.
En ce moment, on parle beaucoup du rapport de la commission Jospin. Et oui, Lionel Jospin, le roi des privatisations, l'homme au caca nerveux de 2002, qui du coup a bien aidé Sarko en 2007, Jospin a été mis à la tête de la commission de la moralisation de la vie politique. Et non content de ressusciter le retraité des bigorneaux, on lui a collé le sexe symbole du chiracisme, puis du sarkozisme, Roselyne Bachelot en personne. Elle a léché du Nicolas pendant 5 ans, aujourd'hui, elle crache dessus avec sourire. Elle, on peut dire qu'elle s'y connaît en moralisation. Bachelot s'est donc paxé avec Jospin pour faire leur commission. Et la France est pendue à leurs lèvres. Vous imaginez Lionel et Roselyne, main dans la main, courant nus sur la plage en réfléchissant à la moralisation de la vie politique ? Première mesure phare, le non-cumul des mandats. Ah, oh, que c'est original. Vraiment, Lionel, tu nous manquais. Toi, Rosine, ça serait bien que tu nous manques. C'était Pascal, de Lyon.
Oui, Daniel, bonjour, c'est Martine, hein, Jean. On ne s'occupe pas que des pruneaux ici, on manifeste aussi, voilà. Je suppose que tu entends derrière moi tout le bruit. Et puis la musique de jeunes tels que MAP ou Amel Ben qui nous accompagnent, voilà, la relève est assurée aussi. Au niveau musical, à bientôt Daniel, au revoir.
Ça s'est bien passé au niveau musical à Agen, un petit peu partout en France, mais enfin ça n'a pas eu l'intensité, ni la tension, ni les violences qu'on a pu constater hier un peu partout, notamment en Espagne, notamment à Madrid. C'est que les pays européens sont plus ou moins frappés par cette austérité. Et oui, bien sûr, il y a eu un front commun de soutien et de solidarité. Mais on ne peut pas dire que l'Europe sociale se soit manifestée d'une manière probante hier, même si, évidemment, cette austérité gagne un peu partout et rôde autour de notre hexagone, si toutefois elle n'est pas déjà à l'intérieur. En tout cas, hier, on était dans la manif, plutôt Antoine Chao était dans la manif, et voilà les images qu'il a rapportées.
Alors, manif européenne contre l'austérité, de Montparnasse jusqu'au siège du MEDEF. Ne payons pas la crise, défendons l'emploi, les salaires, les pensions, les services publics.
On attend que les gens bougent pour dire non à cette politique austéritaire qui tue toute l'Europe. Moi, je suis pour que tous les partis de gauche s'unissent, parce qu'on a un seul adversaire, c'est le patronat, qui méprise, qui profite, qui licencie.
Faut que ça change.
Alors, ils jouent nos vies en bourse, désarmons la finance. C'est l'autocollant d'attaque, hein, rejoignez attaque. Contre le chômage, une seule solution, interdiction des licenciements, ouais. Lutte ouvrière.
Tous les licenciements, hein. Pas simplement des licenciements boursiers, c'est tous les licenciements. Parce qu'il y a aussi des boîtes où on est 3-4 et on se fait virer et on n'a pas un mot à dire.
Alors le troisième autocollant sur votre t-shirt, c'est de gauche comme de droite, l'austérité, on la combat, c'est le NPA. Et le quatrième, j'aime l'Europe sociale, c'est le Parti communiste français, le PCF et le Front de gauche.
Voilà. Ça veut dire solidarité de tous. Hein.
Solidarité avec tous les opprimés de la terre, et un jour on gagnera.
Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres, Étienne de la Beauce. Portugal, l'austérité n'est pas la solution, ça suffit.
Merci.
Alors, des nouvelles du Portugal, comment ça se passe aujourd'hui, cette journée ?
Extraordinaire, une belle journée de grève générale. Pratiquement le pays paralysé. Et nous sommes des travailleurs des ambassades et consulats portugais en France. Nous avons fait grève aujourd'hui et nous nous joignons aujourd'hui au cortège ici puisque nous ne pouvons pas manifester au Portugal. L'austérité, on souffre les effets de l'austérité, c'est-à-dire qu'il y a des coupes sombres partout, les gens sont de plus en plus mal, les Portugais sont obligés de partir de leur pays pour trouver un travail ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà, une belle journée.
Et comment ça peut se traduire alors ce ras-le-bol populaire ? Est-ce que vous espérez quoi ?
Ben, de toute façon, déjà dire qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on a un proverbe au portugais qui dit « qui ne dit mot qu'on sent, quem cala é consciente ». Et ce qu'on veut, c'est aussi alerter pour dire que c'est un mal qui touche plusieurs peuples en Europe et qu'il faut qu'on trouve ensemble des solutions pour s'en sortir.
Résistons à la dictature de la finance. Solidarité avec...
peuple grec.
Solidarité avec le peuple grec.
On est dans la rue avec les forces internationales parce que c'est au-delà de l'Europe, au niveau international, le FMI. Et aujourd'hui, on refuse les dictats de le FMI, les gouvernements, les banques.
Alors, vous avez un drapeau Syriza avec vous, là, sur ce cortège, avec un panneau « Résistons à la dictature de la finance ». En Grèce, comment ça se passe? Le peuple est dans la rue aussi?
Le peuple est dans la rue. Ils ont fait 2 grèves générales la semaine dernière. Coup d'État parlementaire, ils ont passé les mesures d'austérité, le troisième plan d'austérité. Ça va être tombeau pour le peuple. La situation est très critique à ce moment-là.
Athènes, Lisbonne, grève générale.
Ouais, Mermet, eh ben écoute, à Bruxelles aussi, ça manifeste, et on a jeté des œufs, des tomates, puis des bonbons à eau remplis de couleurs sur le Parlement pour vous. Ciao.
Alors là, je suis en train de regarder le show de Hollande, qui assume et soutient parfaitement l'arrestation d'Or Martin et sa livraison clé en main à la « guillemets justice » « guillemets espagnole ». Sachant que je ne suis pas basque et que j'en ai un peu rien à foutre de leurs histoires, mais bon, je suis quand même français et ça me choque beaucoup, quoi. Et je me fais une réflexion. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de réélire Sarkozy. Et pour en arriver à ce que je me demande ça, il en faut quand même vraiment beaucoup.
Bonjour Daniel, bonjour cher AMG. C'est la compagnie Jolimôme. Eh oui, nous jouons notre Faust. Et évidemment, Mephisto sera là. Est-ce lui qui nous a insufflé l'idée de mélanger magie et matérialisme historique, Goethe et Engels, de réconcilier Luther et le pape, Dieu, la raison, la fable et la vérité historique? Diable, diable, il y a de quoi perdre la boule. Mais après tout, comme le disait un grand ministre de la Culture, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Alors à l'époque où l'on mélange moralité et capitalisme, changement et réforme, politiciens et politiques, guerre et humanitaire, santé et rentabilité, tout est permis. Ça se passe chez nous, à la Belle Étoile, à Saint-Denis, du 16 novembre au 16 décembre.
Il était un petit rhum, petit ruette, cacahuète.
Il n'y a pas si longtemps que ça, en 2008, tous les métaux ont énormément chuté.
Oui.
Donc ça a été une année très très difficile pour tous les récupérateurs. C'est pour ça que pendant si longtemps, il y a eu des vols avec les Roms pendant la nuit, etc. Les Roms, les Gitans, etc.
Tu veux quoi, toi?
Il était un petit Rom, plus bête, cacahuète.
Comme une vieille couverture, tu l'es. Il est lourd, il est épais, et il sort facilement.
On récupère tout ce qu'on trouve dans les poubelles, on essaie de le retaper et de le revendre, en sachant que ce qui rapporte le plus quand même de ce qu'on récupère, c'est quand même le métal.
Oui.
Il était un petit rhum qui avait tout de grands douleurs, qui avait tout qu'à manger de rhum.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Sarah Lefebvre, ferraille à vendre.
Flight number 2, arriving from New York.
On est à Saint-Ouen, banlieue nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. Et ici, comme tous les dimanches soirs, c'est les encombrants. Il est tard, il fait froid. Il y a des gens qui ont jeté des trucs, donc il y a des amas de vieilles vaisselles, de vieux meubles, de vieilles fringues, de tissus, de vieilles télé, de vieux ordinateurs, devant toutes les maisons. Il y a des gens qui jettent donc, et d'autres qui récupèrent tout ce qu'ils peuvent pour aller le revendre. Aux puces par exemple, c'est pas loin. Puis parfois il y a de la ferraille, mais la ferraille il y en a de moins en moins. C'est rare la ferraille. Bonsoir. Comment tu t'appelles?
Isabella, j'ai 18 ans. Et ma copine, elle a 14 ans. Nous, on va dans des endroits, pas dans le quartier, cherche des trucs qui sont récupérables. Et ben, après, les jours, le samedi, dimanche et lundi, et on peut les vendre au marché puce de Port de Clignancourt. J'ai fini mes études, mais là, comme je n'ai pas de travail, je cherche un peu à me débrouiller pour me faire des sous. Comme on dit, les Roumains disent que ce sont des voleurs, tout ça. Bah, je préfère pas faire ces trucs-là, de voler. Au moins, bah, je vais les vendre et c'est légal.
Et alors là, vous avez un gros sac, les sacs de courses qu'on nous donne dans les supermarchés.
Oui.
À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a?
C'est des vêtements, des objets, comme des exemples. Là, j'ai trouvé aujourd'hui une glace.
C'est un gros miroir, comme un soleil, avec du métal tout autour.
Ouais.
Et alors, est-ce que vous trouvez de la ferraille des fois?
On dirait que c'est la crise. Même pour nous, parce que comme la ferraille, il y a beaucoup de monde qui la cherche. C'est un peu difficulté parce que là, en ce moment, il n'y a pas de ferraille et tout ça. Parfois, d'autres personnes de faire les métaux. Ils ne veulent pas prendre les métaux des rangs parce qu'ils croient que c'est prise de tête, tout ça. Même c'est pas que les Romains qui sont des mauvais. Parce que les Romains, ils ne viennent pas ici pour, je veux dire, foutre la merde. Ils viennent pour gagner leur vie, pour avoir un pain et avoir de l'argent. Comme un enfant, il apprend à marcher. Bah nous, on est en train d'apprendre à marcher en France, mais bientôt, on saura bien marcher. Mais comme il n'y a pas de possibilité de tout ça, bah, je serre les coudes et je viens en avance.
Habit chiffon, ferraille à vendre, ferraille à vendre, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. La ferraille, les ferrailleurs, les ramasseurs, les récupérateurs de ferraille, les ramasse-miettes qui trouvent des encombrants dans les rues, qui les embarquent, qui vous débarrassent un bout de chantier, qui font commerce de tout ça. La récupération, notamment la récupération des métaux, est une très vieille activité. Très vieille activité, on trouve sur des vases grecs des dessins représentant des récupérateurs de métaux. Tout au cours de l'histoire, on a récupéré les métaux et puis ben, ça continue aujourd'hui. Où en est cette activité? Où en est ce marché? Je vous raconte une histoire triste, une histoire à pleurer. Vous avez un grand rendez-vous amoureux, très important pour vous, le cœur battant, vous l'attendez, elle va arriver, elle a pris le TGV, vous êtes là, ça y est, c'est... Et puis elle n'arrive pas, et puis elle arrive jamais, et vous repartez, c'est foutu, c'est fini, c'est rompu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le TGV n'a pas eu lieu. Le TGV a été annulé. Pourquoi il a été annulé, le TGV? Parce qu'il y a eu des problèmes sur les voies. Et quels étaient les problèmes sur les voies? Les câbles ont été sectionnés et piqués. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en cuivre. Il y a des vols de cuivre. Vous êtes au courant de ces vols de cuivre? Et pourquoi le cuivre a-t-il autant de valeur actuellement? Oh, c'est qu'il y a une grande demande des pays émergents, notamment la Chine, qui a grand besoin de cuivre, mais d'autres pays émergents aussi. Alors voilà, la demande est importante, l'offre en dessous, et il y a donc un coût élevé, des tarifs très élevés pour le cuivre. Très bien, soit. Mais il y a aussi la spéculation. Et oui, il y a d'énormes spéculations. Les fonds d'investissement spéculent très fortement sur les matières premières en général et sur les métaux et sur le cuivre. Voilà pourquoi, voilà pourquoi votre histoire d'amour n'a pas eu lieu. C'est à cause, une fois de plus, des affreux méchants spéculateurs. Quel rapport avec ce qu'on vient d'entendre, ces deux gamines roms que Sarah a rencontrées à Saint-Ouen? On va voir comment, quel est le rapport entre ce marché du cuivre, les ferrailleurs et ceux qui essayent si difficilement de survivre, de vivre parmi nous, Européens qu'ils sont, et qui vivent aussi de ces miettes de petits bouts de fer, de bouts de cuivre, et qui est une tradition aussi chez les Roms, notamment de Roumanie. Est-ce que ça leur profite? Est-ce que les miettes qui tombent du gâteau leur profitent tout de même un peu? C'est ce qu'on va voir jusqu'à 16h dans Là-bas si j'y suis, ferraille à vendre.
À 13 ans, je gagnais plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Je pouvais même pas tout dépenser.
Ah ouais?
J'avais tout ce qu'on pouvait.
Ah moi j'aurais bien voulu, hein. Des lovés. Ouais, sur la tête de Ménigo. Des lovés, c'est pas souvent qu'on va en voir passer, hein, ce rythme-là, mon couillasse.
T'es sérieux, là?
Des lovés, ça va, ça vient, toi, tu sais, quoi.
Jusqu'à la maison, ouais, mais bon, ouais. Les courses.
Toi, même tu sais que.
Vous savez pourquoi?
Mon pote, c'est la reste, quoi, hein.
Un respect.
Eh ouais, mon frère, faut m'en sortir. Chez moi, y'a pas d'études. La ferraille, c'est ma vie. Et pour manger, c'est la bonne attitude. Car ici, tu sais, les temps sont difficiles. En plus d'être à l'égard, ces fils de pute me flashent en matricule. je me sens souvent seul. Et puis t'as vu, j'ai pas de travail, j'ai pas d'adresse locale. Donc pour ma part, c'est sans social que j'avance solo sur la faille. J'ai bien compris que mon statut allait m'afficher comme un bad. Je réfléchis puisque personne ne veut m'aider. À cette heure-ci, c'est marche ou crève, faire des sous, tout voler. J'ai mal au dos, avec le temps j'ai mal aux dents. Je me sens plus que fatigué, mais y'a pas de soins pour les gitans. Et pas de médecin dans nos campements. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? Dans ta frange j'appelle à l'aide, pourquoi me montres-tu la porte? Dis. Si dans ta frange j'appelle à l'aide, pourquoi me montres-tu la porte? On nous appelle les résignés, forcés d'habiter dans les camps. Entre la déchette et les champs, on nous a pas laissé la chance d'avoir du temps. On nous a concentrés, regarde autour de moi, c'est ma famille que l'on a déportée. Mais pour ma part c'est bon, je reste. J'ai rencontré 2-3 forains, donc j'ai rendez-vous garde de l'Est. Je n'imaginais pas comme ça la suite de mon histoire. Des larmes entourent mon œil, je grave ce texte en guise de désespoir. Je repense souvent à ma vie d'avant, les miens me manquent aussi. Mais pour les voir, je dois faire des loves ici. Pas question pour ça de profiter de leurs aides à la con. Le but de ces embrouilles était pour moi notre unique solution. De faire ouvrir les yeux sur ceux qui nous ont condamnés. Un peuple doit rester libre, alors crois-moi que c'est pas prêt de s'arrêter. Je suis pas prêt d'oublier tout ça. Mais pour l'instant, c'est à du temps, évite de parler de mon cas. L'immigration que vous craignez n'est pas celle que je vis. Les images sont trompeuses et les menteurs nous ont tous démolis. Si c'était ça la solution, chez nous ça va plus loin. Le retour des gitans sera si fort qu'il ne restera plus rien. Voilà ces faits, sois pas surpris, tu t'attendais à quoi? Une troupe de Romano dans un tas de merde en plein milieu d'un bois. Oublie ton snatch, aura pas de chien, l'échange d'un billet. La misère est si forte que nos enfants les ont tous graillavés. Alors crois-moi que j'ai rien à foutre des clichés reportages. La France a peur de nous, mais regarde bien qui sont les vrais otages. On reste fiers même si la haine nous a tous condamnés. La force de tous ces mots, c'est tout un peuple qui rêve de s'évader. S'évader, s'évader.
Il est 7h du matin. Et l'entreprise policier récupérateur en métaux vient d'ouvrir. On est à Saint-Ouen dans le 9-3, dans la banlieue nord de Paris, dans une zone commerciale et industrielle. Et on a en face de nous un énorme amas de ferraille de 4 mètres de hauteur sur au moins 10 mètres de large et une grue qui vient remplir une benne. Elle vient ensuite tasser dans la benne pour pouvoir entrer tous ces métaux. Il y a des bouts de fenêtres, des barres de fer, des grilles, des vieux frigos, des vieux chauffe-eau, il y a de tout là-dedans.
Tu veux quoi toi? Il va se faire tuer un jour celui-là. C'est comme ça ici. On crie toute la journée. Ouais. Un côté ça réveille. Hein. Mais un côté aussi ça casse la tête. On m'appelle Amé. Mon nom c'est secret, mais on m'appelle Amé.
Et ça fait longtemps que vous travaillez ici?
Bientôt 2 ans. La ferraille c'est notre bébé.
C'est votre bébé?
Ah, c'est notre bébé, ouais. Oh là là, les patrons. Et voilà, c'est lui qui arrive.
Comment il s'appelle, le patron?
Et Ricardo.
Ricardo?
Ricardo Moreira. Voilà.
Donc vous êtes le patron de ce site-là?
Oui, le gérant de ce site, oui. Et le président du groupe.
Et vous avez quel âge aujourd'hui?
28. 28 ans, oui. Ça fait 4 ans que je suis chef d'entreprise, donc depuis que j'ai 24 ans. Donc je suis président du groupe Métallifère depuis 2008 et gérant Pélissier depuis le 1er août.
Donc c'est un groupe?
Oui, c'est un groupe, oui. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix, dans la potion magique. J'ai été élevé par le patron, le propriétaire de Métallifère.
Vous venez d'où?
Moi, je viens du Portugal. Je suis arrivé en France, j'avais 14 ans, et je ne savais pas parler français, je ne connaissais rien à la vie. J'avais quitté l'école de bonheur, et puis par la suite, bah, voilà, c'est une complicité, et puis il m'a passé un petit peu le relais derrière. Quoi. Quand je suis arrivé, on était 5 sur la société, aujourd'hui on est 40 personnes sur le groupe. Et puis, comme j'ai appris le métier avec lui, il m'a mis à la tête de son entreprise.
Jusqu'à la mort, là? Dans la ferraille.
Ah oui. Ah oui. Je ne changerai pour rien au monde. C'est le plus beau métier du monde.
Ah, ça c'est.
Voilà. Donc qui brûle les salles, mon ami? Il y a le plomb là-dedans. Laiton.
L'outil principal du ferrailleur,
c'est ça. Les ferrailles, c'est ça.
C'est un aimant.
C'est quoi?
On dit même qu'il l'a à la place du cœur. Et ben en fait, tout ce qui est pas fer, ça prend pas les mains. Là, c'est du laiton, ça prend pas les mains. Le cuivre, ça prend pas les mains. Le zinc, ça prend pas les mains. Le plomb, ça prend pas les mains. Il y a vraiment que tous les métaux ferreux qui prennent les mains. Avec du fer. Tu vois là, il n'y a pas de souci, ça prend. Avec ça, ça prend pas. Ça, c'est du fer, ça prend. Donc déjà, la première étape, c'est ça. Et après, si tu n'arrives pas à reconnaître tout de suite, tu mets un coup de lime, si c'est peint ou quoi, à la couleur, tu peux reconnaître. Et après, il y a des métaux qui se ressemblent un peu comme le laiton et le bronze, qui sont un peu jaunes ou ça. Là, après, c'est avec l'expérience.
C'est bon, là ?
Pour reconnaître, il y a les sons. Et puis voilà, quoi.
Ça, c'est du fer ?
Non, l'inox.
Ça, c'est de l'inox.
Ouais. Tu veux une plaque de fer ? Regarde.
Fer. Inox. Fer ?
C'est du fer, ouais, c'est du fer. Ça prend l'aimant, c'est du fer. On pourrait faire une symphonie, non ? Ça, c'est de l'aluminium. On le reconnaît parce qu'il a un bruit qui claque, t'es... Casserole un peu. Aluminium, direct. L'inox, il est plus lourd. Ça, c'est de l'inox. Après, oui, il y a le zinc. Tu vois, le zinc, il est mat et tout. C'est inoxydable. C'est ce qui fait les gouttières et les toitures dans Paris. Après, il y a quoi ? Il y a le cuivre. Le cuivre, on le reconnaît pas au bruit, puisque on met un coup de lime et on regarde la couleur. Après, il n'y a pas de bruit. C'est un bruit mat. Parce qu'il est mou, en fait. Et c'est un des métaux les plus mous.
Tu peux le tordre.
Ouais. Tu peux le tordre, tu peux même le couper, même.
Donc on est devant le tas de ferraille là.
Énorme.
Énorme, oui.
Oh.
En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai récupéré pas mal de clients et je rentre de la ferraille, c'est un truc de fou. J'en sors 50-60 tonnes par jour et j'en rentre le double. Bientôt, je sais pas comment je vais faire. Ça marche très très bien en ce moment, j'ai pas à me plaindre. Bon, la crise est là pour tout le monde, bien évidemment, les marges sont pas énormes, mais aujourd'hui, si on veut travailler, voilà, il faut faire un choix dans la vie. Soit on fait des grosses marges et on travaille peu, ou alors on fait des petites marges mais on travaille beaucoup. Un salaire pour moi, c'est environ 3000 euros par mois, en tant que gérant. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'important, c'est de plus on développe la société, plus on peut faire des salaires, plus on peut faire du chiffre, du bénéfice, du volume.
Et alors, au niveau bénéfice, justement, sur l'année passée, par exemple, ça a donné quoi ?
On tourne à peu près en bénéfice à 10%.
C'est-à-dire ?
100 000 euros.
100 000 euros de bénéfices.
Oui, à peine, ouais. Le dernier chiffre d'affaires, il était de 120 000 euros. Le chiffre d'affaires mensuel.
Par mois ?
Oui, 120 000 euros
par
mois.
C'est énorme.
En août, j'ai fait 180 000. Septembre, 210 000. Et je pense qu'en octobre, je vais dépasser les 300 000.
Donc par an, du coup, vous donnez quoi comme objectif ?
Le dernier bilan, on est à 1 200 000 euros. Et mon objectif, c'est de faire 3 500
000. De plus que doubler ?
Ah, bien sûr, oui. Si je suis venu ici, c'est pour ça. C'est pas pour garder le chiffre qu'on avait, ça servait à pas grand-chose. C'est un site qu'on peut faire jusqu'à 10 millions d'euros, sans problème, si on se débrouille bien.
Grâce à la ferraille.
Grâce à la ferraille et pas que aux métaux aussi, pas que la ferraille.
Eh oui, eh ouais, ouais, c'est une activité qui marche pas mal du tout. Chaque année, la revente de métaux génère une activité qui représente autour d'un milliard d'euros. Et oui, la récup, ça marche, et tant mieux, hein, pas de problème. Sauf que c'était un petit peu à la limite de la légalité, tout ça. 80% des échanges se faisaient en espèces jusqu'à juillet 2011. Et les autorités ont mis le holà. Il y a maintenant une nouvelle réglementation qui est, eh bien, il faut régler par chèque et puis s'inscrire sur une liste, inscrire le fournisseur sur une liste et le rémunérer par chèque ou par procédé bancaire. Donc, fini le cash, ce qui évidemment limite les chances des petits ramasseurs et notamment des Roms pour qui c'était une activité et ça reste une activité. Alors, il faut se débrouiller, il faut trouver quelqu'un qui voudra bien, qui peut avoir un compte en banque et qui acceptera d'être celui qui va porter la ferraille de récupérer chez le transformateur, chez le récupérateur. Ça fait une opération supplémentaire, mais ça complique un peu les choses. Voici comment ça se passe plus précisément, M. Moreno.
Autre numéro de pièce, donc elle est là, X.
Ouais, je voudrais changer pour le carte de séjour.
Vous pouvez garder, hein, y a pas de mal. Hein. C'est une carte européenne. Hein.
Tout le temps, je utilise carte de séjour.
Et vous vous appelez comment?
Jacques. Jacek. Jacek, c'est en polonais, et Jacques, c'est en français. Je suis déjà enregistré dans toutes les usines de ferraille.
Vous travaillez où?
C'est en entreprise de démolition.
Donc vous allez récupérer la ferraille sur les chantiers?
Toutes les choses qu'on peut les vendre, c'est nous.
Tiens. Bien sûr. Merci.
Merci.
Et du coup, sur ces chantiers-là, l'argent que vous récupérez, là, ça fait 1178 euros. C'est de l'argent qui est pour vous ou pour l'entreprise?
Pour l'entreprise, non, il n'y a rien pour moi. Moi, je suis juste le chauffeur, les ouvrières, mais l'argent, c'est mon patron qui gère.
Donc lui, il déclare cet argent-là?
Bien sûr.
Donc du coup, Ricardo, ici, il y a plein de gens différents qui viennent, de nationalités différentes, qui n'ont pas forcément encore la nationalité française, qui travaillent sur des chantiers.
La plupart des gens en région parisienne n'ont pas la nationalité française, hein. C'est tous des étrangers, des gens qui viennent de la communauté européenne ou qui ont soit un passeport, soit une pièce d'identité de la communauté européenne ou alors une carte de séjour. Oui.
Et du coup, tu sais d'où ça vient à chaque fois la marchandise ou tu prends comme ça?
Bien sûr, non, je ne sais pas forcément d'où ça vient parce que ça ne me regarde pas forcément de l'endroit où ça vient, mais je sais que c'est de la marchandise qui vient de leur déchet de chantier. Et puis après, la question de la marchandise, tu ne peux pas être sûr d'où elle vient, donc... que ça soit les Roms, que ça soit n'importe quelle personne, tu sais pas forcément à 100% d'où vient la marchandise. C'est pas cité que sur les Roms. Voilà, il s'arrange, je sais pas, avec des amis, de la famille qui ont des pièces d'identité pour faire passer les noms des uns des autres. Mais puis d'autant plus, moi, j'ai pas envie d'avoir ces gens-là parce qu'après j'ai peur pour le vol, j'ai peur pour plein de choses. Donc.
Pourquoi pour le vol?
Parce que j'ai peur. Ces gens-là, qui viennent me voler mon chantier la nuit, viennent et repèrent. Et puis après, j'ai des vols la nuit. Et j'ai pas envie. Quoi.
C'est forcément eux les vols.
Ça arrive, ouais. Ça peut être eux, ça peut être d'autres gens, moi, personnellement, j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Ça peut être très honnête comme ça peut être très malhonnête. Donc, du coup, je préfère travailler qu'avec des entreprises, des entrepreneurs, des artisans et des gens qui travaillent dans le bâtiment, dans le milieu du bâtiment, quoi. Que c'est leur déchet, c'est pas leur gagne-pain, si vous voulez. C'est le déchet de leur chantier qu'ils sont obligés de s'en débarrasser, que ça soit chez moi, dans une déchetterie. Les Roms, c'est différent, ils vivent de ça, donc.
Justement.
Justement, c'est oui. Et après, bref, il faut m'éterniser là-dessus, mais parce que je vais pas parler des Roms, comme je peux parler d'autres gens. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pas envie de prendre de Roms, j'en prendrai pas.
Donc, des fois, ils revendent à des ouvriers de chantier, par exemple, qui eux revendent leurs marchandises. Donc, ça revient au même.
Je sais pas. Ça, c'est pas mon problème. Je le sais pas et je cherche pas à comprendre. Voilà. C'est pas dangereux, mais pour moi, mais j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. C'est une question personnelle.
On est avec les Charlie, qu'est-ce que tu vas faire maintenant gros? Tous pour la liberté, donc viens manger un petit niglo. Je viens représenter ma race, ma communauté. Sur un rap puissant, on n'est pas enchaîné. Chouna, vivez normal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dina va pouvoir et j'irai chanter pour mes frères. Pour nos cités, on est barré. J'ai rimé, toi t'es mal barré. Crains, tu te crains, t'es du Cali. Alors la jungle, c'est mourir. Laisse ton pénis. Ne comprends pas aux vicelles, c'est la garonne, pas la scène. Faire Merco et pas la scène. Quel meilleur qu'à mami, tu là, je te veux pour moi. Te prends pas parce que t'es pas voyageur, tu l'es ou tu l'es pas. Avec les cousins, ça bosse dur. La ferraille, les lagages, la peinture. nous sans torture, ça sent la chemise dure. Ils nous mettent à côté des ordures. Avec les petits cousins, ça bosse dur. La ferraille, les lagages, la peinture. Nous sans torture, ça sent la chemise dure. Ils nous mettent à côté des ordures.
Écoute-moi, garçon, que tu vas Michel, tu vois. Si t'as quelque chose à dire, on représente notre incité par contre. C'est pareil, viens avec nous chanter un petit morceau ce soir. On va te mettre morceau et viens grailler avec Nico à la braise ce soir. Je sens qu'on va être mouillon. On ira en ville avec la terre, viens faire des traits de rôle.
Avec les cousins, ça bosse dur. La ferraille et la gage, la peinture. Nous sans torture, ça sent la chemise dure. Ils nous mettent à côté des ordures. Avec les petits cousins, ça bosse dur. La ferraille et la gage, la peinture. Nous sans torture, ça sent la chemise dure. Ils nous mettent à côté des ordures.
Bye, bagueur. Allez, dès demain.
Comment tu t'appelles?
David.
David?
Oui.
Et ils font quoi tes parents?
Ils sont pas là. Ah, déjà, c'est la sorcerie. Pour chercher du ferret. Déjà, c'est la sorcerie. En roumain, Jas, Danas, Sastri.
On fait des butées.
Ils sont en cherche de ferraille. Sur les routes, il y a des fois qu'ils vont en Osligrand, partout, quand ils jettent.
Et vous faites comment après, une fois que vous avez récupéré la ferraille?
Après, on va le vendre.
Tu les aides des fois?
Oui.
Et t'as quel âge toi?
11 ans.
Et ça coûte combien la ferraille aujourd'hui?
C'est 15 centimes le kilo.
Le kilo?
Ouais.
Et des fois, vous avez autre chose que de la ferraille?
Oui, il y a du cuivre, il y a du mine.
L'aluminium?
Ouais.
Et c'est
du cuivre.
Et c'est ça, le mine, c'est le cuivre?
Ouais. C'est 5 euros le kilo du cuivre.
Voilà. Les enfants de Montreuil, les enfants en Rome, les manouches de Montreuil connaissent le tarif des métaux qu'on peut récupérer à droite et à gauche. On va retrouver quelqu'un dont on avait parlé, avec qui on avait parlé déjà dans une émission précédente, c'est Étienne Liebig. Là, si vous vous souvenez, on avait avec Charlotte Perry parlé des Roms, et il est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « De l'utilité politique des Roms, une peur populaire transformée en racisme d'État ». C'est le titre de son bouquin. Et Étienne Liebig connaît bien ces histoires de ferraille, de récupération et de survie dans ces quartiers.
Alors voilà, on est à Montreuil. Il y a un petit chien là qui s'agite, qui est attaché à la caravane. Il y a plein de caravanes.
C'est pas toi la ferraille là?
Non, c'est pas moi ici. Non, 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 non. Je n'ai pas habité moi ici.
Ils n'ont pas le choix, tout le monde le fait. Elle disait ça. Étienne Liebig, vous travaillez pour l'association Rue et Cité?
Rue et Cité, oui, c'est ça. J'ai commencé par être éducateur de rue avec des enfants de Zigane en 1978. Tout le monde faisait la ferraille pour survivre. Enfin, beaucoup de familles faisaient la ferraille. Il y avait des Roms, il y avait des Manouches. Et tout le monde avait des petits chariots, des petits camions. Et on récupérait de la ferraille partout où on pouvait. On essayait de faire fondre les métaux. On récupérait les cuivres, on récupérait l'alu, et on allait vendre ça. Il y avait une quinzaine de ferrailleurs sur Montreuil qui récupéraient la ferraille. On faisait les poubelles, on faisait les rues de Paris, on récupérait tout ce qu'on trouvait, on mettait tout ça dans un camion. Et donc c'était sympa parce que quand on revenait avec le métal, toute la famille s'y mettait, quoi, des tout-petits jusqu'aux grands. Tout le monde tapait pour récupérer les métals, parce qu'après l'argent, ben, les gens se le partageaient pour manger, quoi. Et finalement, c'était quand même une bonne solution parce que ça évitait tout ce qu'on appelle l'assistanat et les systèmes d'assistanat qui font perdre un peu de la motivation personnelle. Donc,
et vous en parlez au passé, pourquoi c'était?
Bah parce que aujourd'hui, c'est très très difficile de survivre avec la ferraille. D'abord, c'est très difficile d'en trouver. Ensuite, tout le monde s'est mis à faire la ferraille parce que la misère augmente et tout le monde essaie de trouver un peu de fric à droite à gauche. Et justement, ces petites niches, elles ont été partagées à l'infini. Et puis, je me souviens d'une époque où on allait sur les chantiers, les ouvriers des chantiers nous filaient le zinc qu'ils récupéraient sur les toits quand ils refaisaient les toits parisiens, les gouttières aussi, toutes les gouttières. Là aujourd'hui, les ouvriers ils connaissent le prix du zinc et ils vont vendre eux-mêmes le zinc chez le ferrailleur. Et donc c'est de plus en plus compliqué d'arriver à ce que les gens survivent. Donc faire les poubelles, récupérer les encombrants, les réparer et les remettre la nuit en fonctionnement dans son garage et les revendre aux puces le samedi et le dimanche, c'est une tradition qui date d'avant la guerre à Montreuil. Tous les gamins ont fait ça, moi le premier. C'est quelque chose aujourd'hui qui est plus possible puisqu'il n'y a plus les encombrants.
Les encombrants, la mairie a supprimé les encombrants.
Ouais, c'est ça, on les amène directement à la déchetterie. Je pense qu'il y avait une volonté vis-à-vis du respect de l'environnement de supprimer ce qu'on appelle les grandes poubelles, quoi, les monstres, tout ça. Et ça fait les trottoirs plus clean. C'est vrai que ça a été un choix pour les gens qui en vivaient, très douloureux.
Tu récupères, tu cumules, et après, alors c'est ça, mais la ville ne veut pas qu'il y ait de ferraille. Ça fait crade, quoi.
Bonjour.
Salut.
Ça
va, tu vas bien?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Sarah, je suis journaliste pour France Inter. Ouais, vous vous appelez comment?
Moi,
Corinna.
Corinna? C'est quoi dans la poussette, du coup?
Apporter les ferrailles.
Pour apporter la ferraille?
Oui.
Où est-ce que tu l'as?
C'est de la poubelle.
Voilà.
Là, ici.
Oui, après,
ici, la câblage, pas ferraille.
Ah oui, que le câble.
Ah oui, câblage. Les câblages, les de la poubelle, les chercher. Après, les ménages, ici, la caravane. Après, les vendus.
Et vous vendez où, alors?
La cachaou, père de Motro.
C'est un ferrailleur, ici, à côté, là, Noisy-le-Sec, non? C'est une Noisy-le-Sec, là?
Oui, c'est pas cher, 50 centimes, les kills.
50 centimes.
Ah oui, c'est. Ah oui, c'est pas cher. Mais c'est obligé, il n'y a pas de tramway.
Ah oui,
jusqu'à les câblages.
Ah oui,
parce qu'il y a du plastique avec.
Ah
il est... Oui, il n'est pas beau.
Oui.
Parce que c'est des fils électriques, c'est ça?
Ah oui, c'est comme ça. C'est à 50 centimes les kilos.
Ici, ça va, ouais, ça
oui.
Va.
Ici, les enfants à l'école, c'est ça, comme ça.
Et du coup, avec la ferraille, vous arrivez à gagner combien d'argent par jour, par semaine?
C'est la 30 semaines, 50 euros.
50 euros pour 3 semaines?
Oui.
Et vous nourrissez une famille avec ça?
Moi, mon mari, 12 enfants.
2 enfants?
Oui. Les pays, les cantines, pas beaucoup. 50 centimes par jour, la fille. Pour le bébé, c'est compliqué. Il a cherché des couches, les loulets, manger.
Et votre mari fait la même chose alors? Vous faites ça tous les deux?
Non, mon mari, il est pour partir la câblage. Moi, non. Moi, il a gardé les enfants. M'accompagner la fille à l'école. La caravane, les bébés. Comme ça, toujours.
Merci.
La même chose, sa mère. Appelez-moi.
Ciao.
Bonjour.
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 Oui, madame, ça va?
Oui, madame, ça va?
Ça va et vous?
Appelez-moi dans le de le voir de chez le terrain tous les jours.
C'est là-bas on trouve une ferraille.
On n'a plus le droit.
Bah là, on n'a plus le droit d'y aller. Ouais, quand on voit de la déchetterie, après il y a le monsieur, il dit pars, sinon je vais appeler la police.
Ça fait combien de temps que vous êtes interdit d'aller là-bas?
Ça fait une semaine. Ah.
Une semaine?
Une semaine, ouais. Je sais pas pourquoi.
Le monsieur, il dit parti. Je vais à la police si tu partis pas. Il trouve pour lui. Le monsieur, le chef.
Le chef qui travaille là-bas, il garde pour lui.
Ouais. Tu sais, c'est où la déchetterie? Quand tu sors de là, il y a la pompe essence. Mais après, il y a le foot. Le foot terrain, c'est derrière le foot.
Là, on est à côté du terrain de foot.
Oui, c'est là, tu vois tout droit par là.
Et on va à la déchetterie.
Voilà. C'est là, comme ça. Tu vois, les voitures, c'est là-bas. À voir.
Bonjour monsieur. Vous êtes en plein bricolage. Je fais un reportage sur la récupération de métaux.
Oui.
Et je voulais savoir si vous en aviez ici.
Métaux, c'est les bennes là-haut, c'est la ferraille.
Une benne de ferraille. Hein.
Benne de ferraille et tout est mélangé dedans.
Et, voilà. Et les gens, ils vous en apportent du coup un peu?
Oui.
Vous vous appelez comment vous?
Je m'appelle Fabrice moi.
Donc vous êtes le chef alors?
Non, je suis pas le chef.
Si. Ils
n'osent
pas, mais c'est le chef lui. C'est le chef de la déchetterie.
Et vous récupérez quoi ici alors?
En métaux, y a tout, hein, y a du fer, la fonte.
Tout ce qui est métaux ferreux, cuivre, zinc, tout. Bon, ça part dans la même benne, hein, de toute façon, on s'est recyclé après.
Et vous, parce qu'on peut récupérer un peu de soie avec les métaux, vous en récupérez pas pour vous,
non, vous allez en amener?
On n'a pas la cardine. Oh là là, on n'a pas le droit.
C'est interdit?
Interdit quoi. Ah ouais. Même pour les riviens, s'ils veulent récupérer, c'est interdit aussi. Une fois c'est ici, ça ressort plus. Bon, ça ressort, mais ça ressort par belle, pas une filière. Mais pour nous, personnellement, non, non, c'est interdit.
Je voyais que vous aviez un robinet avec des tuyaux en cuivre quand je suis arrivé.
Non, non, ça, il faut le cuivre d'un côté et l'autre de l'autre, voilà.
Vous triez vous-même ici, alors?
Ouais, des fois on trie, hein. Il faut trier, parce que les gens les mélangent tout, des fois.
Et vous allez faire quoi, du coup, avec le tuyau, là?
Bah, le tuyau, on va le remettre là-bas, après.
Dans la ferraille?
Non, non. Ah ouais, la ferraille. Ah ouais.
Mais c'est du cuivre, c'est pas de la ferraille.
Ah oui, mais nous c'est pareil. Nous, c'est pareil. C'est cuivre ou ferraille, pour nous, c'est des métaux, voilà. La ferraille aussi, c'est un métaux, on entend dire.
Et les gens qui voudraient en récupérer un petit peu et non. Tout, c'est pas possible?
C'est pas possible.
Parce que les Roms, ils le faisaient avant, par exemple, puisqu'ils sont pas très loin, là, sur le terrain.
Ils le font toujours, mais ils rentrent en douce, on dire, le soir, une fois qu'on est fermé. On ferme, alors là, ils rentrent. Là, il a vide, la benne.
Parce qu'eux, ils me disaient qu'en fait, ils avaient le droit de venir avant.
Non.
Mais qu'ils avaient plus le droit maintenant.
Même avant, ils n'avaient jamais eu le droit. Pourquoi? Ils rentrent dans les conteneurs et des fois, les gens, ils arrivent, bon, ils prennent un morceau de ferraille, ils le lancent. Et après, les Roms, ils sont où? Ben, ils sont dans le conteneur. Et là, c'est dangereux.
Il y a déjà eu des accidents?
Pour l'instant, je touche du bois, non. Mais un jour ou l'autre, c'est sûr que ça va arriver.
C'est qu'il y en a beaucoup trop. Et normalement, un site, c'est interdit pour tout le monde, le site. Hein. Une sécurité, on appelle la sécurité ceux qui s'occupent de la sécurité. Et ils font partir, après ils reviennent, après ils repartent, ils reviennent. Vous savez bien comment que c'est, les Romains, c'est toute la France, il y en a partout. Hein. Si on se policie à droite, si on se policie à gauche.
Il y a que ça, Il y a que ça.
La dame. Nous, pour rien faire. Hein.
De quoi?
Pour les Romains.
Comment vous appelez?
Jean-Michel.
Tant qu'ils embêtent pas les gens, ça va. Ouais. Faut pas qu'ils embêtent les gens, c'est tout. Ouais. Pas fouiller dans les coffres, tout ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème, sinon. Michel.
Vous travaillez là, tous les deux?
Ah ouais, on travaille là, tous les deux.
On rentre ça.
Donc là, on monte, on est sur une butte.
Ouais. Là, c'est les ferrailles. Vous voyez, les Roumains, à un moment, il faut sortir d'ici.
Bonjour. Donc là, il y a une dame qui est dans la benne.
Elle n'aurait pas dans la benne.
Mais elle vient récupérer de la ferraille.
Ils n'écoutent pas.
Oh là là.
Ils n'écoutent rien.
Ah, c'est nous, Romains.
Vous récupérez la ferraille?
Ah oui, c'est à le récupérer pour manger. Ah, c'est le 4 enfants, nous aussi manger. Ah, c'est la voiture, c'est à dormir la voiture.
Ils dorment dans la voiture.
Non,
ils
disent. Maison. Non, c'est maison.
Vous n'avez pas de maison?
La maison, c'est la voiture.
Oui. C'est moi, c'est l'enfant.
Vous appelez comment?
Sylvia.
Et vous?
Ah oui, c'est Gouk Florian.
Donc vous habitez juste devant le terrain là-bas?
Ah oui.
Donc ça, c'est des vieilles tringles de rideaux en métal. Elles sont dorées. Vous allez avoir combien avec ça?
Ah non, c'est 10 centimes, ah non, c'est...
Et vous avez combien d'enfants?
4.
4 enfants?
4.
Et vous vivez dans la voiture?
Oui.
Qui c'est qui fume? Qui c'est qui vole? Qui c'est qui joue? Qui c'est qui picole? Qui c'est qui fait des morpions pour toucher les allocations? Qui c'est qui se plaint tout le temps? Qui c'est qui a mal aux dents? Qui c'est qui mange des sardines avant d'aller à l'usine? Les salauds qui habitent en bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils aiment ça. Qui c'est qui est pas productif? Qui c'est qui est pas compétitif? Qui c'est qui comprend rien à Maastricht, Genève, Berlin? Qui c'est qui consomme pas assez? Qui c'est qui a pas d'immobilier? Qui c'est qui a le scorbut? Qui a pas de golden parachute? Les salauds qui habitent en bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils aiment ça. Qui c'est qui vit à crédit? Qui paye tout deux fois son prix? Qui c'est qui a plus un rond? Qui fait des chèques sans provision? Qui c'est qui fait rien? En bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils aiment ça.
Nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais ce sont des gens relativement rares qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société, qu'ils ne voulaient pas travailler ou qu'ils avaient été rejetés par la société.
Voilà, vous vivrez avec les miettes qui tombent de la table, Sauf que ben, même les miettes qui tombent de la table, on ne peut plus les ramasser parce qu'il y a un balai qui passe, un aspirateur qui passe, et les miettes pour l'hygiène, pour la propreté, pour la sécurité, il n'y a même plus les miettes. C'est comme ça que ça se passe à Montreuil, à côté de Paris. Les encombrants, tous ces machins qu'on jette et qui permettaient à certains de survivre, et ben voilà, hygiène et cleanerie oblige. Qu'est-ce qu'en pense Étienne Lébig, qui est, je le rappelle, éducateur et qui très très longtemps a vécu, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, avec les Roms et les Mandouches de Montreuil.
Étienne Lébig, on est de retour avec vous. Vous qui avez écrit un bouquin sur les Roms qui s'appelle « De l'utilité politique des Roms » et qui travaillait depuis 1978 dans cette association à Montreuil, rue et cité. Et donc après cette baladée, après avoir fait un petit tour à Montreuil et notamment à la déchetterie, on se rend compte qu'en fait les Roms, ils n'ont plus beaucoup de manœuvres, de possibilités de gagner leur vie aujourd'hui.
Alors il faut savoir qu'il y a une véritable économie de la misère qui s'organisent autour de la récup, et de la ferraille en particulier. Alors les Roms roumains qui sont arrivés dernièrement, ils sont arrivés un peu comme tous les immigrés, sans trop de possibilités de gagner leur vie. Donc ils font tout ce qui est possible quand on n'a pas le droit de travailler. Et en plus, sur Montreuil, la déchetterie leur est en ce moment interdite, parce qu'il y avait trop de personnes qui venaient à la déchetterie, donc il y a des gens qui se sentaient mal à l'aise avec tous ces pauvres qui sont dans les bacs en train de récupérer. Donc ça aussi, ça leur est impossible. Alors à la déchetterie, il y a le métal, mais il n'y a pas que le métal, il y a aussi les fringues. Ça paraît idiot, mais les gamins roms, ils sont roms, certes, mais ils sont aussi des gamins. Quand on se pointe à l'école et que tous les gamins ils sont correctement sapés, voire certains sapés avec des marques, et que les pompes elles coûtent 120 €, et que là, c'est des mômes, ils se pointent qu'avec des pompes qui ont été récupérées dans les poubelles. Ils préfèrent d'ailleurs des vieilles chaussures de marque, pas à leur taille, que des chaussures neuves à 3 € qu'on trouve dans les solderies. Alors, ados, évidemment, le problème, il s'accentue, parce que alors là, on se retrouve carrément dans un monde où l'apparence est tellement, tellement importante que c'est très dur pour eux de fréquenter le collège. Hein.
Et alors, qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre pour les enfants? Est-ce qu'il y a un peu plus d'espoir pour les jeunes générations?
Il y a vraiment un truc qui est absolument dégueulasse, mais en plus totalement illogique. C'est qu'on oblige, et c'est tout à fait normal, les enfants à aller à l'école. Et donc ça, la scolarité des enfants est très importante, des enfants roumains, roms roumains ou roms bulgares arrivés en France, très bien. Mais à partir de 16 ans, c'est-à-dire à partir du moment où ils devraient rentrer en formation professionnelle, ils n'ont plus le droit. Parce que pour entrer en formation professionnelle en France, il faut avoir un titre de séjour. Donc à quoi ça sert d'aller à l'école si ces gamins ensuite ne peuvent pas faire une formation professionnelle? Donc c'est absurde, c'est une grande absurdité. Réclamation numéro 1, c'est qu'au moins les gamins à 16 ans puissent rentrer en formation professionnelle comme tous les autres gamins européens, de façon à ce que ça n'ait pas servi à rien d'aller à l'école et qu'ils se préparent à un métier. Et effectivement, il n'y a pas tellement d'autres possibilités que la Manche,
la récup
de ferraille et puis toutes les formes de récup, emmerder le monde au feu rouge en voulant faire à tout prix les vitres, y compris quand on n'en a pas besoin. Voilà, c'est un jeu en permanence pour essayer de ramener de quoi manger à la maison. Je pense qu'il y aurait le petit coup de pouce qui autoriserait les gens à travailler, ça irait très vite. Ils s'éparpilleraient sur le territoire, on n'en entendrait plus parler, comme ça s'est passé d'ailleurs il y a 15 ans ou 20 ans, pour les Roms yougoslaves, qui étaient exactement dans la même situation de misère et de pauvreté. Ils sont arrivés, ça a duré 2-3 ans pendant lesquels il y a eu beaucoup de cinéma, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui avec les Romains. Mais eux avaient le droit de travailler, donc faisons la même chose pour les Roms roumains. Ils ont des capacités incroyables d'intégration pour faire plaisir à tout le monde, et profitons-en.
Et qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard?
Plus tard,
des policiers.
Vous voulez tous être policiers là?
Bah oui, policiers ou mécaniciens. Je sais pas, je vais voir. Mon frère, il fait du mécanicien, mon frère. De carrosserie, il fait.
Moi, j'ai un coiffure.
De la coiffure?
Oui.
Tu veux pas faire de la ferraille comme tes parents?
Non. C'est dur, la ferraille.
Donc là, c'est bon, c'est fini. Vous rentrez.
On va rentrer parce qu'on est fatigué, on était très loin. Et là, je vais pas faire ça tout le temps. Je voudrais être infirmière, surtout. Quand j'étais petite, je disais, un jour, je vais sauver les gens, tout ça. Quand ma mère était malade, tout ça, je lui disais, maman, je te promets, je vais te sauver, tout ça. Quand tu vas être malade, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Mais là, je crois que mon rêve, ça va réaliser parce que moi, j'aime beaucoup les études et tout ça. J'aime bien l'école et tout ça.
Alors crois-moi, j'ai rien à foutre des clichés reportages. La France a peur de nous, mais regarde bien qui sont les vrais otages. On reste fiers, même si la haine nous a tous condamnés. La force de tous ces mots, c'est tout un peuple qui rêve de s'évader.
Merci à toutes et à tous. C'était Ferraille à vendre, un reportage de Sarah Lefebvre. Merci à Ricardo Moreira, Étienne Liebig, Ahmed, David, Isabella, Corinna et à tous les ferrailleurs de Montreuil et de Saint-Ouen. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org. Une note importante, La Fabrique Édition propose ce soir une présentation de Une histoire de la Révolution française d'Éric Hazan avec Éric Hazan soi-même à la librairie Libre à lire dans le 11e arrondissement. À la technique aujourd'hui, Fabien Lalléouze et Sophie Moreno, c'est Lucie Acoun et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée avec Pierre Vulto. Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de là-bas si je suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Unique, essentiel, irremplaçable. Grâce à toi, grâce à lui, je revis.
Le sang est un produit rare et précieux. Le don de sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 1 million de malades. À l'approche de Noël, donnez votre sang.
C'était un message de l'établissement français du sang, www.dondusang.net. SNCF, aujourd'hui, offrez-vous un petit plaisir ?
Un éclair au chocolat, c'est vraiment bon. Mais est-ce bien raisonnable ? Les bonnes résolutions avant tout. Mais partir en un éclair et pas cher, ça c'est un petit plaisir autorisé. Je dirais même plus, c'est cadeau.
En novembre, laissez-vous tenter. 500 000 billets TGV et Intercité à prix cadeau sont en vente jusqu'au 27 novembre pour des voyages du 16 novembre au 18 décembre. Offre soumise à condition. SNCF.
Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin.
Sur les épaules de Darwin, l'émission culte de Jean-Claude Amezen est devenue aujourd'hui un livre. Ce livre est un voyage. Un voyage à la découverte d'un univers toujours plus riche et mystérieux. Un voyage à la rencontre de nous-mêmes. Sur les épaules de Darwin, un livre de Jean-Claude Amezen, coédité par France Inter.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
La police de Lyon recherche très activement cet après-midi un homme soupçonné d'avoir décimé une famille. On a découvert ce matin les corps de deux petites filles âgées de 3 mois et 5 ans, non loin de celui de leur mère, dans un appartement de Vienne, en Isère. Selon la police, l'homme recherché pourrait être le compagnon de cette dernière et le père du bébé. L'État attend une mobilisation des Corses. C'est le message des ministres de l'Intérieur et de la Justice après l'assassinat du président de la Chambre de commerce d'Ajaccio, Jacques Nasser, hier. Pour Jean-Marc Ayrault, cet assassinat est l'œuvre de la mafia. L'État ne capitule ni ne recule, affirme Christiane Taubira. Quant à Manuel Valls, il appelle à un sursaut de l'État et de la société corse pour desserrer, je cite, le carcan que les groupes criminels font peser. À Brest, la peine maximale requise contre le capitaine du cargo turc qui avait éperonné le Sokalik. 4 ans de prison ferme ont été requis contre son second. Les deux hommes sont jugés en leur absence. Le bateau de pêche breton avait coulé en 2007 au large du Finistère. Le patron du bateau restait à la barre jusqu'au bout pour prévenir les secours et sauver son équipage est mort. Seul l'armateur turc est présent à l'audience. Brest, Valérie Lenigène.
Le procureur a requis la peine maximale à l'encontre du capitaine de l'Océan Jasper pour homicide involontaire, délit de fuite et non-assistance à personne en danger et 4 ans à l'encontre du second qui dormait alors qu'il était censé être à la passerelle. La brèche sur le cargo avait été maquillée à la peinture noire dans l'espoir de pouvoir s'enfuir à la faveur de la nuit. L'interdiction définitive de commander un navire a aussi été réclamée pour ces deux hommes sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le procureur a aussi requis 300 000 euros d'amende à l'encontre de l'armateur turc, soit quelques milliers d'euros en deçà de la peine maximale en raison de la présence de Mehmet Gomuk à l'audience. Yvette Jobard, la veuve du patron de pêche, était en larmes. Cette femme qui s'est battue pour la tenue de ce procès en France estime que les réquisitions sont à la hauteur de la mémoire de son mari, Bernard Jobard, qui s'est noyé en sauvant son équipage. Valérie Lonigène, France Bleu Brésil, pour France Inter.
Le jugement pourrait être mis en délibéré à l'issue des plaidoiries de la défense. L'escalade entre Israël et le Hamas, les bombardements israéliens se poursuivent sur le nord de la bande de Gaza. Dernier bilan, 15 morts côté palestinien depuis le début de l'opération hier, tandis que les activistes palestiniens multiplient les tirs de roquettes sur le sud d'Israël. 3 Israéliens ont été tués ce matin. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est apparu à la télévision israélienne. Il affirme que l'État hébreu va continuer de prendre toute action nécessaire pour défendre sa population. Le Hamas, de son côté, rejette toute tentative de trêve à ce stade. Une nouvelle avarie sur le Vendée Globe. Ravière Senso fait route vers Madère. Son chariot de grand voile est cassé. Les dommages ne sont pas graves, mais la météo ne lui permet pas de réparer en mer. Et puis en rugby, on ne change pas grand-chose. Face à l'Argentine, samedi à Lille, seul le deuxième ligne, Johan Maestri, retrouvera son poste de titulaire du 15 de France.
Tous les dimanches à partir de midi, en direct et en public du studio 109, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
Dans 3D dimanche, la grande peur est-elle de retour? Pourtant, les historiens doutent de la réalité de la grande peur de l'an 1000. N'empêche, les survivalistes font des provisions et se précipitent sur les lampes de poche. Ferons-nous la lumière sur la cause de ces peurs sans craindre la fin du monde?
Pour assister à l'émission, rendez-vous dimanche à 11h30 devant la porte B de la Maison de Radio France.
À dimanche.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Bientôt 16h05 sur France Inter et vous retrouvez Frédéric Ledéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Delphine Simon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Jarouski, contre-ténor. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Oh, vous êtes mondialement connu, donc on a envie de dire qu'on ne présente plus. Et pourtant, on va le faire quand même, parce que quand même, le contre-ténor, c'est quelqu'un de particulier, c'est quelqu'un de magnifique et magnifié ces temps-ci. D'ailleurs, vous avez participé hier en invité surprise, mais c'était marqué dans le journal déjà, c'est exprès je pense, que vous seriez l'invité surprise d'une soirée donnée par James Bowman, qui était un des prédécesseurs illustres de cette spécialité. Et il y avait d'autres de vos collègues, Salgavo, racontez-nous ça un peu.
C'était très émouvant pour moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à Alfred Deller,
oui.
Qui a été effectivement le premier contre-ténor anglais à remettre au goût du jour cette voix un petit peu oubliée. Et on pourrait dire que peut-être James Bowman est même peut-être plus important qu'Alfred Deller parce que déjà il a une longévité incroyable. Et on est tous jeunes contre-ténors, on a tous écouté beaucoup James quand on était étudiant. C'est une voix qu'on reconnaît en deux secondes. Qui a une personnalité incroyable, une humanité, un humour très anglais, un charisme très particulier. Et ce que j'aime bien chez lui, ce que j'ai vu hier soir, c'est que rien n'est grave. Il y a une espèce de légèreté, de bonheur à faire de la musique qui fait beaucoup de bien.
Vous avez rencontré cette voix, comment ? Par le disque ?
Par le disque.
C'est ça, d'abord.
Bah, il a gravé, par exemple, un Stabat Mater de Pergolèse anthologique avec Emma Kirby, qui reste aujourd'hui encore une référence. Évidemment, il est quasi imbattable sur le terrain de la musique anglaise, Purcell, Dowland. Et c'est une voix aussi très étrange parce qu'on a l'impression que des fois, les notes rebondissent. Il y a une espèce d'écho et de vibrations qui font vraiment sa touche personnelle. Et hier, on était, je crois, une dizaine de contre-ténors à lui rendre hommage.
Écoutez, vous êtes adorable d'admirer un ancien, un aîné, parce que on va pas dire qu'il est si vieux que ça, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une fragilité particulière ? Ça, on va en parler éventuellement, bon, sur la durée. Mais on va vous écouter, vous, Philippe Jarouski. C'est un extrait de La Voix des Rêves, double CD, donc une pièce d'abord de Porpora, qui est un musicien un peu délaissé, qui revient grâce à vous, entre autres, à la surface de notre admiration. Le passage, c'est Si Fatché, toi qui attises mon audace pour ses yeux charmants dans un danger si grand. Amour, défends-moi. C'est très passionné déjà, parce qu'on dit que c'est de la musique baroque, mais tous les sentiments humains étaient déjà présents.
Ah, toujours été là.
À l'époque baroque, c'était bien sûr.
Tu mi difendi amor, tu mi difendi.